Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité à Storia Voce. Un petit rappel, n'hésitez pas à nous soutenir. Pour ce faire, rendez-vous dans notre rubrique Soutenez-nous qui est disponible dès la page d'accueil. Je suis heureux de recevoir pour une cinquième émission, je crois maintenant, Hugues Dossy. Hugues Dossy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être revenu au micro de Storia Voce. Nous avons entamé, après une série sur la Renaissance, nous avons entamé une série de cours d'histoire consacrés donc aux guerres de religion. Et il y avait un mot, ou plutôt un événement de notre histoire que nous n'avions pas évoqué au cours de notre précédente émission. Il s'agit de la Saint-Barthélemy, donc le 24 août 1572, qui est bien évidemment un moment majeur. Nous avons évoqué lors de notre précédente émission le massacre de Vassy, qui met le feu aux poudres et qui lance les guerres de religion. Mais quid de la Saint-Barthélemy? Que se passe-t-il ce 24 août 1572?
Le 24 août 1572, et plus précisément dans la nuit du 23 au 24 août 1572, se produit un double massacre. Il y a d'abord le massacre des chefs huguenots, des chefs du parti huguenot, de l'élite politique du parti, qui sont tués dans la nuit, dans leur logis, à Paris, sur ordre du roi. Et le premier à périr, c'est Gaspard de Coligny. Gaspard de Coligny, amiral de France, l'une des figures emblématiques du parti huguenot, qui avait déjà été blessé deux jours auparavant dans un attentat, le 22 août, eh bien il est achevé par les soldats du roi. Et la deuxième dimension de ce massacre, c'est le massacre populaire, le massacre de la population réformée de Paris, qui est perpétré par la population catholique de Paris, qui voit les soldats du roi s'en prendre au chef huguenot et qui pense que c'est là le signal de l'extermination de l'hérésie et qui se lance dans un massacre qui dure plusieurs jours et qui fait 3000 morts.
C'est l'événement majeur des guerres de religion. Les guerres de religion ont commencé, nous l'avons vu au cours de la précédente émission, en 1562. La Saint-Barthélemy, c'est une sorte de point d'orgue, de symbole.
On peut dire que c'est l'un des événements majeurs des guerres de religion, et on peut dire qu'il y a un avant et un après Saint-Barthélemy, dans la mesure où cela fait basculer dans une certaine mesure, le cours de ces guerres.
Alors pourquoi ce massacre peut-il sembler déconcertant si on le replace dans le contexte chronologique, donc étroit des premières années, des premiers mois, pardon, de l'année 1572?
Alors il faut se replacer dans le cours des guerres de religion. En août 1570, a pris fin la troisième guerre civile, la troisième guerre de religion, qui s'est achevée par un édit de pacification, comme toutes les guerres de religion, qui est l'édit de Saint-Germain. Et à la suite de cet édit de Saint-Germain, l'idée de Catherine de Médicis et de Charles IX a été d'enraciner la paix, afin qu'il n'y ait plus de guerre de religion. Et afin d'enraciner cette paix, des négociations ont été entreprises, négociations matrimoniales ont été entreprises, par Catherine de Médicis, avec Jeanne d'Albret. Jeanne d'Albret, reine de Navarre et mère d'Henri de Navarre. Et l'idée, c'était d'unir la sœur du roi de France, catholique, Marguerite de Valois, avec le chef du parti huguenot, Henri de Navarre. Et on pensait ainsi que ça serait fini des guerres. Et puis l'idée un peu de Catherine de Médicis, c'était de se dire, bon ben, Henri Navarre va épouser ma fille, il viendra à la cour et peu à peu, il se fera catholique et peu à peu, je décapiterai le parti huguenot. Le problème, c'est que, alors que tous les protestants français étaient rassemblés à Paris pour célébrer ce mariage, donc mariage qui a eu lieu le 18 août 1572, alors qu'on est dans cette ambiance de célébration et finalement de réunification du royaume.
De réconciliation.
De réconciliation, on peut le dire, de réconciliation durable, brutalement, le roi donne l'ordre d'exécuter les chefs huguenots. Ça peut paraître complètement déconcertant.
Alors, bien évidemment, cette Saint-Barthélemy est pour beaucoup le symbole d'un obscurantisme religieux et la Saint-Barthélemy est entourée d'une légende, une légende bien évidemment noire. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette question?
En fait, la légende noire, c'est celle de Catherine de Médicis. La propagande huguenote, immédiatement après la Saint-Barthélemy, a développé la thèse suivante. Le mariage d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois aurait été un piège, en fait, pour attirer les Huguenots, les chefs Huguenots à Paris, et le massacre aurait été prémédité. Et ici, on met en exergue le machiavélisme de la Florentine Catherine de Médicis. Et cette légende noire qui naît dans la propagande huguenote, elle s'est propagée de telle manière qu'Alexandre Dumas l'a reprise à son compte et que des historiens au XXe siècle ont continué à la défendre. Il y a des historiens militants, défenseurs du protestantisme, qui encore, dans les années 80, réussissaient encore à défendre la thèse du machiavélisme de Catherine de Médicis. Et le fameux film « La Reine Margot » de Patrice Chéreau est la reprise pure et simple de cette légende véhiculée par, notamment par Alexandre Dumas. Et donc en fait, on a longtemps vécu sur cette interprétation d'un massacre prémédité.
Alors, c'est pas la première fois que Dumas et notre époque est influencée par ce personnage. Si cette version ne reflète pas la réalité, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelles ont été les hypothèses, les autres hypothèses sur lesquelles les historiens ont travaillé?
Alors, c'est à partir des années 1980-1990 que vraiment les historiens se sont repenchés sur le dossier.
Donc, c'est très, très, très récent.
C'est très récent. C'est très récent. Et là, on a cherché à interpréter, à comprendre le massacre autrement que par cette espèce de préméditation qui, on le voyait bien à la lecture des documents, ne tenait pas. Alors, il y a deux historiens qui ont beaucoup travaillé sur la question. L'un est Jean-Louis Bourgeon, l'autre c'est Denis Crouzet. Ils ont émis des hypothèses contradictoires. Pour Jean-Louis Bourgeon, Charles IX aurait été poussé par le duc de Guise et l'ambassadeur d'Espagne, qui l'aurait menacé d'une révolte parisienne et d'une guerre contre la France, en lui disant « si vous ne profitez pas de la situation, de la présence des chefs huguenots à Paris pour les exterminer, eh bien, on se dressera contre vous ». Ça, c'est l'hypothèse Bourgeon, elle ne tenait pas. Puis Denis Crouzet lui avait renversé la perspective en disant que le massacre était totalement la volonté de Charles IX, qu'il l'avait voulu, et qu'il l'avait voulu en accomplissant ce qu'on appelle un crime d'amour, c'est-à-dire qu'il avait voulu en quelque sorte libérer le royaume des guerres de religion, épargner à ses sujets les guerres de religion, en anéantissant les chefs du parti huguenot pour que ces guerres ne puissent plus avoir lieu. Mmh. En fait, on s'est rendu compte que ni l'une ni l'autre de ces hypothèses n'était pleinement satisfaisante. Et c'est Arlette Johanna, en 2007, dans un ouvrage qui fait maintenant référence, qui a donné la version de ce qu'on peut considérer comme la vérité, en quelque sorte, avec tous les guillemets qu'il faut mettre au mot vérité, sur la guerre de religion, en fait, le massacre de la Saint-Barthélemy. En fait, c'est bien Charles IX qui a pris la décision du massacre. Mais pourquoi l'a-t-il prise? Il faut se remettre dans le contexte très étroit de ce 24 août 1572. Le 22 août, Gaspard de Coligny est victime d'un attentat. Il sort du Louvre, il revient du Conseil du Roi et il prend un coup d'arquebuse tiré d'une fenêtre de la rue dans laquelle il cheminait. Et comme il s'est baissé au moment où le coup d'arquebuse a été tiré, il n'a pas été tué, il a simplement été blessé. On l'a transporté dans son logis, Charles IX est venu le visiter, il l'a assuré de sa confiance, il l'a invité à venir au Louvre, Coligny a refusé, mais les lieutenants de Coligny, les autres chefs du parti huguenot, ont réclamé justice au roi de France. Et ils ont accusé immédiatement les Guises, parce qu'entre les maisons de Coligny et de Guise, il y avait une inimitié inexpiable depuis la fin de la première guerre de religion. Et ils ont dit au roi la chose suivante, si vous ne punissez pas le duc de Guise vous-même, nous le ferons. Nous le punirons nous-mêmes. Et Charles IX a eu peur d'une sédition. Il a eu peur que les Huguenots, très nombreux à Paris, prennent les armes, s'en prennent au duc de Guise, que ça déclenche un affrontement armé qui aurait été contraire à son autorité, qui aurait mis en péril son autorité. Et par mesure de protection, par mesure de précaution, eh bien, il a ordonné l'exécution des chefs Huguenots pour prévenir cette sédition dont il avait réellement peur. Alors, comment l'expliquer? Parce qu'en fait, il faut se replacer dans un contexte plus lointain. Déjà en 1567, lors de ce qu'on appelle la surprise de Meaux, les Huguenots avaient été accusés de vouloir s'emparer de la personne du roi, de se saisir du roi, d'avoir une action séditieuse. Et le roi avait dû fuir en pleine nuit depuis Meaux jusqu'à Paris, s'était senti humilié. Et il y a tout un contexte de ses relations avec les Huguenots très tendu qui l'ont conduit à redouter cette sédition. Mmh. Donc c'est vraiment Charles IX qui a eu peur d'une sédition huguenote et il n'y a pas de préméditation.
Comme une peur d'un État dans l'État, comme par exemple au temps de Philippe le Bel avec les Templiers, c'est un acte un peu comparable?
Alors non, il faut complètement oublier l'expression État dans l'État. C'est une expression qui pour les Huguenots a été extrêmement galvaudé. On a dit que c'était Richelieu par la suite qui avait accusé les Huguenots de vouloir faire un État dans l'État. C'était pas du tout ça. Non, non. Là, on a simplement Charles IX sans poser sur lui une menace militaire immédiate. Qui pourrait ensanglanter Paris alors qu'il est présent, qui pourrait menacer l'autorité royale, susciter une guerre extrêmement violente sous ses fenêtres même. Et c'est parce qu'il considère que ces agissements portent atteinte à la majesté royale qu'il veut y mettre un terme.
Mmh. Alors le conflit va durer encore une vingtaine d'années, les guerres de religion vont encore durer plus de 20 ans d'ailleurs. Quelles sont les conséquences immédiates de ce massacre parisien ?
Alors la première conséquence, c'est qu'il y a des massacres en province. Il y a une Saint-Barthélemy parisienne et il y a une Saint-Barthélemy des provinces. Dans une quinzaine de villes, des grandes villes parfois, hein, il y a eu un massacre qui a suivi la nouvelle du massacre parisien. On a appris qu'à Paris, on avait massacré des Huguenots, alors il y a eu un massacre aussi dans ces villes-là. Et donc on peut dire que la Saint-Barthélemy, en tout, a fait une dizaine de milliers de morts en France. Donc ça, c'est la conséquence la plus immédiate. Et puis il y a aussi une conséquence très très importante, c'est la rupture de confiance qui est consécutive à ce massacre entre le roi et ses sujets huguenots. Parce que dans la mythologie monarchique, le roi c'est le père de ses sujets. Or ici, le roi a ordonné l'exécution de ses enfants. Et c'est quelque chose qui est très difficile à admettre pour les huguenots. Et puis ça engendre surtout une tentative d'éradication du parti huguenot par la monarchie qui se dit que voilà, on peut profiter de cet affaiblissement, du fait que le parti huguenot est décapité, hein, les chefs sont morts, on va essayer de venir à bout de cette résistance militaire huguenote, on met le siège devant La Rochelle, il y a un premier siège de La Rochelle en 1573, c'est le frère de Charles IX, le futur Henri III, qui met ce siège devant La Rochelle, mais La Rochelle résiste, et finalement, au terme d'un peu moins d'une année de combat, la guerre prend fin par l'édit de Boulogne en 1573 et on peut dire que le massacre de la Saint-Barthélemy n'a pas abouti comme Charles IX aurait pu l'espérer à la fin des guerres de religion.
Quelles conséquences au sein du parti protestant ?
Alors au sein du parti protestant, c'est la fin d'une génération, hein, puisque la première génération de ceux qui avaient pris les armes, c'était le prince de Condé, c'était Gaspard de Coligny, meurt avec la Saint-Barthélemy. Voilà, et donc on a le passage à une seconde génération de chefs qui, eux, ne sont pas morts parce que, et ça, il faut le dire, au moment de la Saint-Barthélemy, les jeunes princes, Henri de Navarre et Henri de Condé, sont au Louvre. Et Charles IX leur fait la proposition suivante, soit vous abjurez, soit vous mourrez aussi. Et donc ils abjurent. Provisoirement, hein. Ils vont rester prisonniers à la cour pendant un certain temps, puis ils s'évaderont, d'abord Condé, puis Navarre, et une fois sortis de leur captivité, eh bien, ils se reconvertiront au protestantisme et reprendront la lutte.
La Saint-Barthélemy est un tournant, il y a dans les guerres de religion, il y a un avant et un après ?
Oui, il y a un avant et un après, ne serait-ce que sur le plan des idées politiques. Les Huguenots ont formalisé, après la Saint-Barthélemy, des théories politiques tout à fait révolutionnaires, qu'on appelle les théories monarchomaques. Des théories monarchomaques qui sont des théories extrêmement radicales sur le plan politique, qui prônent ce qu'on appelle la théorie du contrat et de l'obéissance conditionnelle. C'est-à-dire que on considère que la menace que fait peser la dégénérescence du pouvoir monarchique en tyrannie justifie qu'on l'encadre, ce pouvoir monarchique. La souveraineté est réputé être confié par Dieu au peuple, incarné par les États généraux, et ce sont ensuite les États généraux qui doivent conférer l'exercice de la souveraineté au roi. Aussi longtemps que le roi respecte ses engagements, son contrat, il conserve l'exercice de la souveraineté. Si jamais il exerce une tyrannie, qu'elle soit spirituelle ou politique, à ce moment-là, il rompt son engagement et on peut prendre les armes contre lui, après l'avoir admonesté, pour le dessaisir de son pouvoir, pour le démettre de ses fonctions. Donc ce sont des tyrannies, des conceptions totalement révolutionnaires pour l'époque, mais attention, elles sont le fait des monarchomaques, ce sont quelques penseurs, elles ne sont pas le fait des théoriciens officiels du parti huguenot, bien sûr, parce que ce sont des théories qui entraînent la condamnation de lèse-majesté.
Eh bien, merci beaucoup, Hugues Dossy. Il y a un troisième volet à cette série consacrée aux guerres de religion. Après donc la présentation des guerres en elles-mêmes, la Saint-Barthélemy, nous présenterons dans un autre et dernier cours d'histoire l'édit de Nantes d'avril 1598. Merci, Hugues Dossy. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et à très bientôt pour un nouveau cours d'histoire.